RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, troisième heure des GG, Antoine Diers, Sandrine Pégan et Didier Giraud, une avocate, un consultant juridique et un agriculteur. C'est notre trio de GG, c'est la troisième heure des grandes gueules.
J'adore.
Au cours de laquelle on va revenir sur l'affiche du match ce soir, France-Suède en 16e de finale. C'est surtout, c'est à 23h les copains. Alors, 23h, est-ce que vous allez veiller? Parce que le match, c'est 90 minutes. Enfin, ouais, avec les pauses fraîcheurs.
Quand le mondial est en France, il y en a des gens qui se lèvent à 23h pour regarder les matchs.
Mais on s'en fout, c'est pas en France.
Ah, vous êtes invraisemblable. Deux secondes. Le mondial, là, t'as beaucoup de matchs qui sont à 23h. Là, l'équipe de France, c'est 23h. Avec les pauses fraîcheurs, avec la mi-temps, si jamais il y a les prolongations et les tirs au but, ça risque de t'emmener un peu loin.
Et alors,
donc, tiens, il y a eu les supporters marocains qui ont regardé la victoire de leur club historique. Tu vas bosser? C'était cette nuit, tu vas bosser dans la foulée?
Attendez, commencez pas la discussion maintenant. C'est tout à l'heure à midi moins 20. Est-ce que vous arrivez à tenir
un congé foot?
Attendez, est-ce que vous arrivez à tenir? Est-ce que vous vous êtes
il y a pas pensé?
Est-ce que vous vous êtes organisé? Est-ce que vous avez posé une récup pour demain? Est-ce que vous vous êtes mis en télétravail? C'est à midi moins 20 qu'on en parlera.
Je demande la RTT mondiale.
À 11h20, on regardera ce qui se passe du côté des riverains du canal Saint-Martin. Ils n'en peuvent plus, les riverains du canal Saint-Martin. C'est la pagaille, c'est la bagarre. Et en plus, il y a un gamin là, qui est devenu la terreur du quartier. Il a 14 ans, Hamza Ladouane. Alors, c'est la star des réseaux sociaux. Seulement, il y a un moment, il faut peut-être dire stop. Donc, vous venez en parler avec nous. D'abord, on va commencer par s'intéresser à ces changements de vitesse sur nos routes de France. Il y a des records de changements de vitesse quasiment au kilomètre. Et c'est le système Coyote qui les a recensés. En fait, le système Coyote a analysé les données, il les a cartographiées pour regarder les axes routiers où il y avait le plus de changements de vitesse et le plus de radars.
Oui, on se pose tous la question quand on prend le volant. Il faut rouler à combien là? Est-ce qu'on doit rouler à 50, à 70, à 80, à 110? C'est vrai que c'est un casse-tête. Et il y a des exemples très précis. Par exemple, sur le tronçon entre Lyon et Avignon, entre donc le Rhône et le Vaucluse sur la Nationale 7, on prend 160 km et sur 160 km, il n'y a pas moins de 120 changements de panneaux de limitation de vitesse. 120. Donc ça fait un changement de vitesse tous les 1 km 300. Imagine. Donc forcément, tu te fais piéger à un moment donné. C'est-à-dire, s'il y a un radar des gendarmes, tu te fais avoir. Sur la départementale 943 que tu connais peut-être, Antoine, entre Calais et Lens, dans le Pas-de-Calais, il y a 50 changements sur un parcours de 80 km. Sur la D2 reliant Herbignac à Saint-Julien-de-Vouvante, dans le nord du département de la Loire-Atlantique, 45 changements sur 85 km. Bref, il y a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que vous en pensez,
Didier? J'ai toujours dit depuis le début des radars fixes que c'était une bonne chose pour la sécurité si on le mettait dans les lieux accidentogènes et qu'ailleurs, c'était juste un impôt déguisé. Voilà, les exemples que tu donnes, ça nous montre que c'est un impôt déguisé.
Oui, mais au-delà des radars, c'est même un casse-tête pour le conducteur qui ne sait jamais vraiment à quelle vitesse il doit rouler.
Je pense qu'aujourd'hui, dans chaque panneau de limitation, il faudrait une cellule qui joue sur ton régulateur. Enfin, on est capable d'envoyer des robots sur Mars, on devrait être capable de régler le limitateur en fonction de la portion. Et voilà,
non, mais on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à ceux qui s'occupent de ça d'être un peu moins dingo et de
mettre moins de limitation de vitesse. Ah, mais ceux qui s'occupent de ça, ils sont dingos parce qu'ils collectent l'impôt, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'accidentologie.
Mais non, ça part de, à mon avis, ça part de bon sens.
Mais des fois, collecter des impôts, c'est pour le bien. C'est pour le bien, quand même.
Alors, je pense que c'est fait pour ça, moi. Je partage avec vous votre étonnement, mais je pense qu'il y a un tout petit peu de mauvaise foi dans cette analyse, puisque la départementale entre Calais et Lens, je la vois bien.
Elle est plein de petits villages.
Et en réalité, voilà, plein de petits villages. Et donc, tu fais le panneau à 70, le panneau à 50 pour entrer dans le village avant de ressortir éventuellement à 70 puis à 90. Donc voilà.
Enfin, là, ça si, fait pas non plus non,
mais,
autant de choses.
Oui, pas mais 50, c'est pas ça. Bah, pardon, mais si tu traverses un village, effectivement, tu redescends et les gens ne savent pas adapter leur vitesse.
Là, c'est un village, donc c'est pas sur.
Mais donc,
c'est pas sur une autoroute
routes,
ou sur.
Non, mais du coup, bah, là, les exemples qu'ils donnent, c'est sur des nationales ou des départementales qui traversent des villages.
Si tu traverses des villages,
il y a 50 changements, tu traverses pas, à mon avis, 50 villages sur 80 km.
Mais c'est en fait 4 là, ce qu'il vient de te dire.
Tu fais, t'arrives sur une deux fois deux voies, t'es à 110. La deux fois deux voies, elle passe à 90, elle passe à 70 et t'arrives au panneau 50. 4 changements, juste pour rentrer dans le village.
Et tu recommences dans l'autre.
Et tu recommences pour ressortir, tu vois. Donc en fait, je mets un petit peu en doute c'est le vrai truc, il y a peut-être du sensationnalisme, mais surtout en fait, adaptons notre vitesse et c'est pas un problème
que t'as besoin
de descendre et de remonter sa vitesse.
Sauf que la question, c'est que là, on te met des radars.
Voilà, c'est ça. Alors, juste après.
C'est un peu la démonstration de Coyote, si tu veux. C'est que tu dis toi-même, t'as les panneaux, tu adaptes ta vitesse. On est d'accord, sauf que derrière, on piège. Si tu veux, en même temps.
Ah oui.
Mais oui. C'est là où c'est quand même.
On attend en fait l'automobiliste qui.
Ne sait plus à combien il doit
arriver. Non, mais non, l'avancement ralentit suffisamment vite et boum.
Oui, parce qu'en fait, du coup, au départ, ça pourrait être de la sécurité routière. Donc, tu te dis, ah oui, c'est bien pensé, la vitesse, elle est désormais décidée tronçon par en tronçon. Mais comme le dit Alain, derrière, t'as un radar. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est même pas un impôt déguisé, ça s'appelle de la concussion. La concussion, c'est une somme qui est perçue par le fonctionnaire de façon illicite. Et j'ai même un confrère qui a décidé de déposer plainte contre l'État pour concussion, justement, parce que c'est un confrère spécialisé en droit de la route. Parce que justement, tous ces radars qui étaient positionnés à des moments où il n'y avait pas besoin, c'était pas justifié par l'accidentologie ou autre, c'était juste de la concussion, donc il recevait de l'argent, mais il a déposé plainte contre l'État. À voir ce que ça va donner.
C'est
une aberration et un exemple concret de la bureaucratie française.
Dans la technologie d'aujourd'hui, allons vers des voitures plus autonomes pour libérer le conducteur de ces emmerdements-là, de savoir à combien il doit rouler. Quoi.
C'est les voitures que tu conduis plus en fait. Coyote donne justement des chiffres allant dans ce sens. Sur les PV dressés par les radars automatiques. 6 sur 10 sont pour des vitesses de moins de 5 km/h et plus de 80% pour des excès de vitesse de moins de 10 km/h. Donc ce sont en fait des conducteurs qui sont de bonne foi, mais qui sont piégés parfois par un manque de lisibilité du réseau, qui n'ont pas été assez rapides dans le réflexe, ça s'est passé de 80 à 50 vite.
Exactement, en fait, comme ça que tu te fais.
Et donc, c'est des petits excès de vitesse qui te fait perdre quand même des points. Alors, pas maintenant pour les
vitesses,
il n'y en a plus.
Darmanin, il a supprimé ça. Pour tout ce qui est inférieur à moins de 5 km/h.
Quand même les 135 euros, quoi. Voilà, hein.
45 euros, le petit excès de vitesse.
Bah oui, mais c'est un peu tout ça normal.
Non, c'est pas normal. Attention. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que on peut pas tout à la fois dire, les grands dangers de la route.
C'est pas là les dangers, ils sont pas là.
Les radars, pardon, mais en fait, c'est les radars qui ont fait ralentir les gens. Alors, je suis d'accord, il y en a certains où tu te dis, oui, celui-là, il est vraiment placé pour t'avoir.
Reconnais par exemple les 80 km/h. Au début, on a Édouard Philippe, qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, qui a dit 80 km/h partout. Et puis, on s'est dit, il y a eu gilets jaunes, etc. Donc, on a laissé le choix au département. Ce qui fait, il y a, dans des départements, c'est 80, et dans d'autres, c'est 90. Pardon, ça n'a rien à voir avec la sécurité routière. Ça rend les choses illisibles.
C'est
uniquement pour des raisons politiques qu'un patron de département.
Et si tu roules un peu, tu vas dans l'ouest,
t'as du juste chez nous, le périphérique parisien. Ça n'a pas été baissé pour après, justement, d'une fois qu'il y a eu un changement. Hop, mais du coup, on a réaugmenté. Donc voilà, c'est une aberration.
Il y a Jérôme qui veut témoigner. Jérôme, il nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour les GG.
Bienvenue bonjour, Jérôme. Vous aviez votre exemple précis, vous, sur votre trajet. Dites-moi.
Oui, moi je suis à Marcoussis. Pour aller à Montlhéry, il y a quoi, 2-3 km. Il y a 4 changements de vitesse, en fait. Vous passez de 50 à 30. Après une portion à 500 mètres où vous êtes à 50, et après vous repassez à 30. Et moi je vois un matin, comme je pars à 2h du matin pour aller bosser, et un matin je me
suis fait flasher
à 80 à 36 au lieu de 30.
Oh là. Et vous êtes dans une agglomération là, vous traversez plein d'agglomérations ou pas?
En fait c'est une ville avec une ligne droite, c'est pour rejoindre la Nationale 20. Mais c'est pareil, après plus loin sur la Nationale 20, vous avez la Nationale 20, elle est, par exemple, elle est séparée au milieu par un gros terre-plein en béton. Mmh. C'est deux fois deux voies, et là vous avez les flashs à 70. Et je peux vous dire que les camions, quand ils déboulent derrière, et vous êtes à 70, je peux vous dire qu'ils vous mettent du plein fort dans les rétros, hein. Et vous avez intérêt à vous pousser, parce qu'ils vous poussent, hein. Et vous, c'est pareil quand vous rendez, quand vous roulez à 30. Oui. Mais les gens, ils deviennent fous derrière vous.
Eh oui, bien sûr.
Vous êtes fait piéger. Vous êtes fait piéger.
Ça ne correspond pas.
Vous êtes fait piéger souvent ou pas,
non,
Jérôme?
Non, une seule fois. Maintenant, quand c'est 30, c'est 30.
Ouais, mais 36.
36.
Enfin, 36 ça, à 2 heures du matin dans une ville vide. Oui. Combien, 90 balles?
90 euros parce que j'étais à 36. Avec le nouveau radar,
les voitures. Mais j'ai toujours, par exemple, j'ai toujours trouvé ridicule qu'on maintienne les limitations de vitesse sur autoroute lorsqu'il n'y a personne. Enfin, je suis désolé, ça devrait. Ah, limitation de vitesse, ça devrait être quand il y a du trafic. Ouais. Mais quand il n'y a personne. Ah, ben oui, mais si.
Non, mais au-delà de 130.
Mais si, mais de toute façon, on est dans la déresponsabilisation du conducteur et d'une manière générale, c'est la France, c'est comme ça, hein.
Non, mais c'est juste
la France des règles. On te tape sur les doigts, surtout.
Surtout qu'il faut faire rentrer des sous.
Jérôme, le radar, il y est toujours, le radar, ou il a été saccagé, ou masqué, ou caché, dites-moi.
Il est toujours. Et en plus, plus haut sur la nationale 20, vous avez le tout premier radar électrique, le premier radar que M. Sarkozy avait inauguré. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, pareil, quoi, vous roulez à 30, mais ils sont fous derrière vous. Hein. Ah, je peux vous dire, ils vous insultent et tout.
Bah ouais, mais en même temps, ils se font prendre aussi, quoi.
Ça, à la rigueur, on peut le faire exprès aussi.
S'ils passent plus vite, ils se font prendre aussi, quoi. Donc tout le monde passe devant le radar à 30.
Jérôme, on va prendre un autre exemple, et je vous remercie de nous avoir raconté là, ce qui vous arrive là, sur votre trajet. On va aller du côté de chez Mickaël. Mickaël qu'on connaît dans les GG viticulteurs. Bonjour Mickaël.
Bonjour les GG, comment allez-vous?
Bien Mickaël, alors racontez-nous vous du côté de la Côte d'Or, là, entre quoi, Dijon et où alors?
Alors entre Dijon et Beaune, un jour Autoplus avait référencé le secteur et sur les 36 kilomètres de route, il y avait exactement 42 changements de vitesse. Ça en fait un à peu près tous les 850 mètres.
C'est une logique.
Mickaël, c'est ce que décrivait Antoine, il y a les entrées de tous les petits villages. Où ça passe villages, de 90
zones,
à 5.
Il y a aussi des zones qui sont des zones de croisement, comme par exemple sur l'entrée de Beaune. Il y a un croisement par rapport à deux villages qui sont sur le côté. Bon, bah ici, on vous a relimité à 70, 50.
Le carrefour, on doit traverser le carrefour à 70.
Et du coup, comment vous faites?
Mais tous les villages sont pas à un kilomètre chacun. Hein.
Bien sûr, mais du coup, c'est entrée et sortie d'agglomération, quoi, en fait, c'est ça? Avec une zone des fois à 70.
Entrée et agglomération. La sortie, parce qu'on passe très très vite à 90. Mais c'est un piège à touristes, parce que les touristes sur la côte pensaient bien qu'ils s'amusent. Et là, les radars, ils fonctionnent. Hein.
Ouais, mais les gens qui habitent dans le village, ils veulent que ce soit ralenti à 50. Et il y en a peut-être même qui ont demandé des zones 30.
Il y a des villages qui le méritent largement.
Donc, on est vraiment, Mickaël, dans la sécurité routière, alors.
Mais non, pas 42 changements.
De toute façon, un village, ça se traverse à 50. Il n'y a pas de question à se poser. Mais quand on traverse une zone, c'est une nationale, quand même. C'est pas une petite départementale. C'était une ancienne nationale. Quand on traverse une zone, j'ai envie de dire, artisanale, on la traverse pas vraiment, en plus elle est sur le côté, je veux dire, il n'y a pas grand chose, en plus il y a le feu,
c'est autour des villages, pour connaître un peu cette route quand même, autour des villages qui sont à 50, ce qui est compliqué quand on y roule, c'est les zones à 70 qui sont avant et après le village, c'est ça qui perd le conducteur en fait.
C'est ça qui perd le conducteur, et le fait qu'on ait aussi peu de zones pour doubler, il n'y en a que 5.
Et
la plus grande, je crois qu'elle fait 1,2 km. Vous vous retrouvez derrière un jeu de camion.
Bien sûr.
Ou un enjambeur.
Mais dites-moi.
Ou un enjambeur. Ouais, bah là, c'est la catastrophe. Ils font chier, c'est plutôt.
mais dites-moi, Mickaël, du coup, là, parce que vous êtes de la région, vous les connaissez, vous savez où sont les radars. Mais est-ce beaucoup de gens se font piéger? C'est vraiment une pompe à cash ou pas?
Il y a des contrôles.
Alors je sais pas si c'est une pompe à cash parce que les radars sont toujours posés. C'est des radars mobiles principalement. Et ils les posent toujours dans les endroits où on peut doubler. Et justement sur la fin de la zone où on peut doubler, où on peut avoir
comme par hasard.
Doubler un camion, quelque chose comme ça.
Voilà. Ouais, reconnais quand ça.
Je pense qu'ils marchent pas mal, mais ils sont énormément peints ou brûlés ou jetés.
Ce que nous dit Mickaël, il y a la sécurité. Je suis d'accord, mais quand on te met le radar juste en fin de zone où tu peux doubler,
je te l'accorde. Et surtout, tu as les voitures radar. Et donc, moi, je me suis récemment fait prendre par une voiture radar à un endroit où je suis persuadé que j'étais en train de doubler. Et donc, j'étais au-dessus des 90, juste au-dessus, et t'as la voiture radar à ce moment-là. Bon, ben voilà.
Mickaël, merci d'avoir été dans les GG. À bientôt, Mickaël.
Allez, à bientôt.
Salut, nous dit Mickaël, il y a les touristes aussi. Oui, parce que là, c'est la côte, viticole. Il y a énormément de touristes.
Oui, mais normalement, avec Coyote. tu es dans la voiture, ça ne fait que biper quand tu dépasses la vitesse.
Tu passes ton temps à biper,
oui.
Là.
Ah oui, c'est ça.
On va aller on va tester la géographie de Didier.
Oui,
d'accord.
Oui, parce que là, il me disait que Beaune, c'était dans le.
Mais
dans
non, la je croyais que Mickaël, c'était notre auditeur de France.
Est-ce que tu connais Demigny?
Demigny, oui, bien sûr, à côté de Chalon-sur-Saône, dans mon département.
Voilà, on est dans ton département, Saône-et-Loire, pour terminer. Bonjour, Frédéric.
Bonjour les GG.
Justement, bonjour. Frédéric, est-ce que vous aussi vous avez des exemples? Est-ce que trop c'est trop aujourd'hui les changements de limitation? Dites-moi.
Ben c'est vraiment trop c'est trop, et en plus nous on a des routes qui sont vraiment sur la limite des deux départements, Saône-et-Loire et Côte d'Or. Alors, si on prend par exemple la route qui va de Beaune à Autun. Eh ben, on est tout le temps limite.
Un coup de l'un,
Saône-et-Loire, Côte d'Or, et en fait, on n'a pas de panneau de changement de département parce que des fois, vous êtes sur le département pendant un kilomètre. Mais sauf que, quand vous êtes sur la Côte d'Or, parce que la Côte d'Or, eux, ils sont repassés à 90 en vitesse normale, et la Saône-et-Loire, non.
Donc, en fait, on le sait pas forcément.
Ah oui, et donc là, j'entendais la personne qui est intervenue,
Mickaël.
Oui, effectivement, là, pour les touristes, alors là,
c'est un festival.
Là, c'est jackpot, là.
Mais dis-toi, Frédéric, un dernier mot. Est-ce que les routes sont bien entretenues, au moins?
Autre question.
Ça. Alors, ça dépend. Alors, les départementales, on n'a pas trop de soucis. On a des départementales qui étaient avant des nationales, celle qui va de Chalon-sur-Saône quand on monte sur Paris. Là, ça va, mais après, sur les routes secondaire, on va dire, il y a des fois, c'est un peu le carnage quand même.
Ah, c'est ça, il y a les nids-poules, elles ne sont pas entendues. Parce que normalement, l'argent des radars, rappelez-vous, qui devait être fléché vers la réfection des routes, les infrastructures routières.
Ah, donc, le fléchage, il n'a pas dû être bon. Alors.
Dans un monde idéal.
Il n'a pas dû être bon, dit Frédéric. Frédéric, merci d'avoir été dans les GG, vous aurez conclu. Mais vous connaissez Didier Giraud, vous l'avez déjà croisé en Saône-et-Loire ou pas? Ou c'est un emploi fictif?
On se voit de temps en temps quand moi je monte sur Paris pour le travail et quand on prend le train à Montchalin.
Oui, vous le croisez à la gare, il est jamais
ce que tu veux dire, c'est il va au boulot quand même. tous les gars qui vont à la gare du Creusot et Montchalin peuvent dire que je vais le matin et je reviens le soir. Oui.
Salut Frédéric, bonne journée. Ouais,
on prend le train de 6h53. Des fois ensemble, c'est ça.
Oh oui, mais Frédéric, il vous a payé pour dire tout ça.
Merci.
Il faut dire du bien sur lui.
Alors, changement de limitation de vitesse, est-ce que trop c'est trop? Est-ce que c'est exagéré en plus avec les radars qui sont installés là où on doit? Est-ce que c'est un casse-tête pour les automobilistes? Oui, un casse-tête à 96%. Avec les grandes gueules, avec Antoine, avec Sandrine et avec Didier, on va vous faire connaissance avec Hamza Diladouane, 14 ans. C'est devenu la petite terreur du canal Saint-Martin. Vous venez commenter ça avec nous au 32-16. Le type, il parade sur les réseaux sociaux, content d'être venu une resta. Est-ce que c'est la honte pour nos autorités? 32-16 pour commenter ça avec les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, il est 11h25, Sandrine Pégan, Didier Giraud, Antoine Dier. Je vous propose avec vous, bien sûr, au 32-16, qu'on aille faire un tour. Et là, vous avez vu les images durant les 8-10 jours de canicule qu'on a eu, qu'on aille faire un tour du côté du canal Saint-Martin. Combien pour aller se baigner canal Saint-Martin? Vous savez, canal Saint-Martin, c'est au nord de Paris. C'est un quartier où on a vu les gamins, les jeunes, les adultes, essentiellement les jeunes, faire des concours de saut du pont et sauter dans ce canal. C'est pas la Seine, le canal Saint-Martin. Non. Faut bien préciser. C'est vraiment c'est un canal qui est complètement à part au nord de Paris. Et on a découvert le petit Hamza.
Le petit Hamza, il a 14 ans. Il est surnommé la douane et il enchaîne depuis plusieurs semaines les provocations, les incivilités au canal Saint-Martin à Paris. Alors il est déjà connu service de police. Pourtant, il il est tout jeune. Il est né en 2012 en Espagne, selon une source policière, et il apparaît dans de nombreuses vidéos. On le voit armé d'un pistolet à eau. Il sème la terreur. Alors il vole, il se met en scène. Il y a eu plein de vidéos ces derniers temps. On le voit notamment, il est filmé en train d'arroser des policiers municipaux. Ensuite, il dérobe une bouteille dans une épicerie pendant qu'un complice détourne l'attention. Il est installé également. Alors, il a installé avec plusieurs amis un faux péage pour les cyclistes. Et il leur demandait 2 euros. 2 euros tu passes, sinon on t'arrose jusqu'à ce que tu pleures. Voilà. Et donc, il emmerde tout le monde, hein, si j'ose dire. Mais visiblement, on n'arrive pas à l'arrêter. Alors, quand même, les services de police ont convoqué ses parents. Donc, on verra comment. Et on s'aperçoit que Canal Saint-Martin, alors le maire de Paris autorisé à baignade, c'est devenu un peu une zone de non-droit. Il y a des images qui circulent. On voit des jeunes en train de sniffer de la cocaïne, sauter n'importe où. Il y a eu d'ailleurs un décès. Bref, est-ce que c'est le grand n'importe quoi?
Ouais, il y a des riverains qui se font importuner. Alors,
les riverains, ils en peuvent plus. Les nuisances sonores.
Voilà, c'est sous prétexte de jeux, de récréatifs. Enfin, j'imagine quand t'habites dans le quartier, voilà, il y a un moment.
Alors, tu dis, le petit Hamza, on en fait quoi?
Tu siffles la fin de la récré.
Ah, bah, tu demandes ça à Antoine.
Moi, j'ai une pensée pour tous les bobos. Pour tous les bobos qui doivent être en pleine dissonance cognitive, là. C'est formidable, le maire de Paris a autorisé toute cette belle jeunesse à venir se baigner. On est tous ensemble dans un moment de communion. Ces jeunes qui sont des chances pour notre pays. Et en fait, ça se passe mal. Vous m'auriez demandé, je l'aurais parié. En fait, le truc est un enfer. C'est sale. Il y a de la consommation de drogue, tu le disais, Olivier. Il y a des petits wesh, des petits racailles qui viennent mettre un péage, etc. Eh bien voilà, dissonance cognitive absolue pour le bobo parisien. Ça ne peut plus bien se passer quand il n'y a plus d'autorité.
Ah, tu vas pas le mettre au newf quand même.
Mais l'autorité, c'est pas que la police. Mm-hmm. L'autorité, y compris de ses parents. Plus d'autorité du gamin de 14 ans qui se dit que il faudrait, enfin qui peut se dire, je vais arroser la police, je vais arroser les passants, je vais pousser des gens dans l'eau. Mais attends. Et puis moi j'arrive surtout à l'absence d'autorité sur le fait qu'il n'y ait pas un ou deux gaillards, éventuellement plus costauds que moi, qui ont fait. T'arrêtes
d'enquiquiner tout le monde. C'est la faillite de l'éducation, surtout là, des parents.
C'est la faillite de la torgnole. T'arrêtes d'enquiquiner tout le monde. Et en fait, dans une société normale, le gamin de 14 ans, il aurait déjà pris une torgnole par un père de famille qui aurait dit arrête de nous enquiquiner là, dégage. Et en fait, ça n'arrive même plus dans notre société. Parce que
ça se passait comme ça avant.
Mais évidemment.
Si un petit môme faisait le bordel dans le village, il y en a un qui l'attrapait, un adulte.
Oui. Demande le père Giraud comment il faisait.
Ouais, on n'est pas dans un village.
Si tu me poses la question, voilà. Comment on fait sur le petit Hamza? Une bonne tatouille. Voilà.
La fessée est interdite maintenant.
Oui, hein, les violences éducatives, c'est réprimé.
Tu mets une rouste, quoi.
Voilà. Votre réponse fait qu'on a compris pourquoi notre société est arrivée là où elle est. Voilà.
Personne n'ose faire ça.
Et ça...
Est-ce que c'est constitutionnel, la tatouille?
Augmenté par la peste et le choléra que sont les réseaux sociaux. Et maintenant, les chaînes d'infos continuent, parce que ça se grève par-dessus, quoi. Hein. On reprend ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ce gamin est devenu, en 4 jours,
intouchable.
Il est sorti du commissariat en disant « c'est formidable, j'avais la clim ». Et en plus, c'est les racistes, c'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Parce qu'il plaide aussi le racisme quand il est arrêté.
Évidemment.
Donc la seule solution, c'est que au début, il aurait fallu 3 paires de familles, vu qu'apparemment le sien est défaillant, 3 paires de familles qui lui mettent chacun une bonne torgnole, et puis tu vas faire tes devoirs, tu rentres chez toi et t'arrêtes de faire chier.
Il est en vacances. Voilà.
Ah oui, c'est les vacances scolaires.
T'arrêtes d'enquiquiner les gens.
Mais ouais.
Est-ce qu'il a passé son brevet?
Non, mais voilà. En fait,
moi, je crois que si j'ai à passer là-bas et que je crois que je réagis comme ça, mais après, je suis comme les bobos qui habitent sur le bord du canal Saint-Martin et je paye mon péage pour passer, quoi.
Moi, bobo, je suis pas certain que.
Que fait-on pour rester dans le cadre légal, maître?
Oula. Vous savez qu'en temps normal, je suis pour la défense des droits humains. Je me dis que le jeune peut toujours s'améliorer.
Mais c'est de ta faute.
Bien sûr, tout est de ma faute. C'est là, moi, j'ai juste peur d'une chose, c'est le mauvais message qu'il est en train de passer. C'est qu'en fait, pour exister, il faut rentrer dans la délinquance. Parce que qu'on ne parle pas de problème de discernement, hein, parce qu'à 14 ans, tu sais que tu n'as pas le droit de pousser les gens dans le canal. Tu sais que tu n'as pas le droit de racketter. Tu sais que tu n'as pas le droit d'agresser verbalement un policier. Donc, on vient de pas nous dire qu'il y a un problème
si
de discernement.
Si tu te filmes, t'es déjà dans une préméditation du truc pour devenir un touche. Quoi.
C'est que là, en fait, on a inversé, pour moi, l'échelle des valeurs et que surtout au niveau des limites. Et je suis juste obligée de vous dire aussi que là, il n'a pas 13 ans, il a 14 ans. Donc, il a une responsabilité pénale. Alors bon, vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'il encourt ? Bon, bah alors ce sont des sanctions éducatives, un petit placement, un petit suivi avec un éducateur spécialisé, avec un travail d'intérêt général.
Je peux vous interroger, selon plusieurs sources, il serait connu des services de police pour une dizaine de faits commis depuis juin 2025. Que s'est-il passé ? C'est-à-dire, il a été jugé, sanctionné. Une fois de plus, on touche du doigt la limite de la justice des mineurs. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il se croit tout puissant parce qu'il ressort libre à chaque fois du commissariat.
Et qu'il ne veut rien arriver. Ouais.
On n'a pas, puni ses parents, on n'a pas suspendu les allocs, on n'a pas à un moment donné mis une sanction face à ça.
Qu'il est convoqué.
Et si tu mets pas de sanction, forcément il parade, il dit vous voyez, les flics, c'est des nazes, moi je suis le roi du canal Saint-Martin.
Il y avait la clim au commissariat.
C'est une fierté malsaine, ça
m'amène à une réflexion qu'on a fait ici, je me rappelle, et pas qu'une fois, avec la juge Bruguière, et qui convenait qu'à un moment donné, il est important que à la primo-délinquance, même si elle est infime, il y a une peine qui soit exemplaire. Parce que c'est celle-là.
Qui soit exécutée.
Parce que même si t'as volé une bouteille de soda, il faut une peine qui soit exemplaire à ce moment-là. Ça t'empêche de rentrer dans un parcours de délinquance où tu crois qu'il y a l'impunité totale.
Oui, mais l'impunité, elle vient déjà du fait que son père cautionne. Son père est informé et son père ne dit rien. Et le soi-disant, la justification, c'est de dire, ah ben non, mon père, il sait que je fais pas de bêtises. Voilà, c'est là le problème avec les parents. Et je pense que le parquet pourrait s'en saisir, parce que du coup, il pourrait très bien faire un signalement, et qu'il y ait du coup une mesure d'AED qui soit ordonnée. AED, c'est une aide à l'éducation à domicile.
Pas une aide. C'est rééduquer le père.
Non, mais c'est pour éviter qu'il y ait un placement. Parce que
s'il faut que
ça
soit le père qui fasse du travail forcé, et ben c'est le père.
On va voir Seb du côté de la Moselle, qui est fonctionnaire territorial. Bonjour Seb.
Bonjour.
Alors, que fait-on ?
On sanctionne. Non mais sérieux,
faut de quelle manière ?
Oui, mais de quelle manière ? Parce qu'il a déjà été sanctionné avec une contravention.
Vous sanctionnez les parents déjà. Déjà le père qui cautionne. Non mais sérieux,
il a eu des contraventions.
Allez-y.
On va où sérieusement ? On va où ? Le monde il part en couille, c'est une catastrophe quoi.
Vous avez vu les images ?
Ouais, j'ai vu les images. Imaginez-vous un jeune là, le jeune qui a ses études là, qui a un sac sur le dos là, tous ses affaires scolaires sont mouillées, sont trempées. Mais non mais sérieux, on va où quoi ? Et puis le jeune il se pavane encore sur les réseaux sociaux. Mais non, faut à un moment donné, faut arrêter. Quoi,
mais c'est que pour ça qu'il le fait.
Mais oui, en plus.
Mais tout ça pour se pavaner sur les réseaux sociaux.
Voilà, le père qui cautionne, bah hop, sanctionné. Hop, allez, hop, c'est fini.
Et moi, je comprends même pas qu'il n'y a pas des gens qui lui aient pas mis une torgnole.
Oui, pardon, voilà, ouais. Même les flics, les gendarmes, pardon, parce que.
Ah, bah, si les gendarmes font ça,
tout le monde filme et.
Dans une zone rurale, donc moi, c'est la gendarmerie. Mais, moi, comme je disais à mon fils, je dis toujours à mon fils, comme je disais à votre collaborateur de la réception, moi, mon fils, je lui ordonne de dire bonjour aux forces de l'ordre, quoi. C'est ce que mon père m'a inculqué, en fait. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait une connerie dans le village, là. J'ai nettoyé tous les panneaux du village parce que je me suis fait attraper par le maire. Et à un moment donné, il faut sanctionner des petits.
Vous avez dû passer un sale quart d'heure.
J'ai passé un sale quart d'heure, le maire m'a.
Et il n'y avait pas besoin du juge. Mais Sébastien, on est d'accord, il n'y avait pas besoin du juge. Ça s'est réparé sans le juge.
Mais il n'y a rien, non, voilà. C'était un respect mutuel, c'était le respect des gens, c'était le respect, tout simplement. Il n'y a plus de respect, de plus rien.
En ce qui concerne le gamin dont on parle, il me semble avoir vu passer une image où on le voit qui rigole avec le maire de Paris ou avec le maire de l'arrondissement en plus.
Oui, donc
il a demandé au maire de Paris qu'il allait visiter s'il pouvait lui faire sauter ses PV pour baignade interdite.
Voilà, mais c'est pour ça que je te dis, donc, en fait, lui-même, il a pigé tous les codes, c'est-à-dire qu'il se met en scène, il a compris, et c'est la star des réseaux sociaux. Mais même de la part de l'élu qui prend ça à la légère ou à la rigolade, il devrait pas. Il ne devrait pas, si tu veux, parce que lui, il a la fonction d'autorité en tant que maire. T'es le premier magistrat de la ville ou de l'arrondissement. Et t'as même pouvoir de police judiciaire.
Donc, par démagogie, le maire du 10e va se ranger de son côté en disant « Oh, mais c'est un jeune, vous comprenez, c'est tellement sympa de se baigner dans le canal Saint-Martin. »
C'est lui qui aurait dû lui mettre une torgnole.
En fait, il faut surtout
Mais qui se baigne, c'est pas le problème, c'est qu'il raquette les gens.
Non, mais il faut pas gâcher l'image, vous comprenez, c'est tellement sympa.
La dissonance collective des bobos que j'évoquais tout à l'heure.
Seb, vous avez raison.
Le maire qui aurait dû lui mettre une torgnole.
Merci d'avoir été avec nous.
Le maire, il aurait été
poursuivi. Mais non, tu peux pas.
Tu ne peux pas, c'est interdit.
C'est interdit.
Pas de violence éducative.
Pas de violence éducative.
Pas de témoin, c'est pour l'éducation. Oui, voilà, pas de témoin et que l'enfant ne se plaigne pas non plus.
On verra ce qui se passe dans les semaines à venir. On va se tenir au courant. Allez, dans un instant, la France-Suède, ce soir, 23h, c'est la Coupe du Monde. Ce sera à vivre sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde, bien sûr. Seulement, c'est à 23h. C'est le match du soir. Ça met le sommeil et les corps à rude épreuve. Très franchement, est-ce que vous vous êtes organisé pour demain? Vous avez posé une RTT, vous êtes mis en télétravail, 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules. Antoine Dierz, Didier Giraud, Sandrine Pégan. Et vous, comme tous les jours, vous prenez la parole au 32-16. Là, ça va être intéressant de vous entendre en toute franchise sur comment vous vous êtes organisé avant le France-Suède de ce soir, 23h. Surtout, comment vous êtes organisé pour demain. Est-ce que vous avez adapté vos horaires de travail aux horaires de la Coupe du Monde de foot et des matchs de l'équipe de France, entre autres? Venez nous dire ça, il est midi, moins le quart. Déjà hier au soir, on s'est un peu couché tard quand même, parce que c'était passionnant à suivre. Il y avait deux belles affiches et il y a deux sélections qui ont chuté, les Pays-Bas.
Ah oui, c'est le principe des phases finales.
Et l'Allemagne. Et ce soir, c'est France-Suède.
Il n'y a pas que la canicule qui nous empêche de dormir. Il y a cette foutue Coupe du Monde, mais c'est pas possible. Ouais. C'est un cauchemar, parce que des matchs à 23h.
Cauchemar.
Alors ça veut dire qu'on se couche à 1h du matin s'il n'y a pas prolongation ni tir au but. Et on ne sait pas. Hein. On a vu hier, à chaque fois, les matchs ont été jusqu'au bout. Je pense aux supporters marocains, ils ont dû aller bosser. Alors pour ceux qui bossent, il faut enchaîner. Donc le match à 3h du mat, etc. Non, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Vous allez jusqu'à 1h, vous faites la première mi-temps, sachant que le prochain match d'équipe de France, si on gagne ce soir face à la Suède, c'est samedi, ça sera aussi à 23h. Bon, c'est un samedi, c'est déjà plus facile.
Ah, ça veut dire qu'on travaille le dimanche.
Voilà, sauf pour ceux qui travaillent le dimanche. Comment vous faites?
Moi, je vais me coucher.
Antoine, il s'en fout.
Et je regarderai le résultat le lendemain matin en me réveillant. Et puis, s'ils ont gagné, je serai content. Et puis voilà, et puis, j'aurai bien dormi, moi. J'espère juste.
Je regarde même pas la première mi-temps.
Mais de toutes les façons, je vais être informé parce que je vis en centre-ville de Dunkerque. Il y aura des klaxons, il y aura des trucs. Je saurai quand on marque un but. Donc, je vais essayer de fermer les yeux tranquillement. Voilà. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire le coup de la foudre comme la dernière fois, là, où ça s'est terminé à
3h. Ah oui, avec les 2h50 de pause de mi-séance.
C'est possible, ça peut arriver.
Et là, tu te retrouves avec les mecs qui explosent de joie en pleine nuit, à 3h du matin, autour de chez toi.
Didier.
Sandrine ou Didier. Ah.
Moi, je sais pas encore comment ça va se passer.
Parce
que là, ces temps, avec la chaleur, c'est plutôt au lit de bonheur et levé de bonheur. Donc, ce matin, j'ai écouté à la radio en faisant mon travail, en faisant le tour de mes quelques vaches que j'ai pensées ce matin. La fin de Maroc
Pays-Bas
mais pour la France cette nuit franchement je sais pas comment je vais faire encore.
Mais tu vas te mettre devant la télé ou pas?
Ça dépendra comment je suis fatigué ce soir parce que c'est pas gagné quoi. On peut aussi largement dormir avant le début du match mais voilà c'est
ce que je compte faire moi.
Quand la Coupe du monde elle est loin de chez nous ça
ouais petite
stratégie d'Alain.
La stratégie c'est je dîne sieste, et puis après les pieds sur le canapé, petite sieste, une demi-heure, trois quarts d'heure,
prêt à 23h.
Ouais, et pour être prêt pour 23h.
Oh, le réveil à 23h.
Non, pas de réveil à 23h. Après dîner, si tu veux, t'as toujours un moment, tu sais, tu sors pendant la digestion, tu te laisses aller une petite demi-heure, ça va emmener vers 22h15, 22h30. Okay. Et puis ensuite, hop, tu repars.
Ça, c'est parce que t'es un vieux monsieur.
Parce que
moi, si je suis parti, tu me revois pas avant le réveil le lendemain matin. Encore plus vieux,
quoi. Alors attendez, Sandrine.
Mais en quoi c'est un cauchemar, sans déconner? Franchement, les Français veulent une Coupe du Monde, mais il faudrait que le match il soit calé entre le dessert et le JT. Tu vois, c'est un peu comme ça en fait dans l'idéal pour eux. Mais attends, tu vas te coucher à 1h du matin, c'est une fois tous les 4 ans. T'inquiète pas, la République survivra. Bon, en tout cas, moi, tu sais que je suis supportrice de l'OM. De toute façon, j'ai appris la patience.
C'est vrai qu'il
donc
y a
pour
pas
moi, c'est la meilleure des vertus. Donc, je vais attendre jusqu'à 23h. Donc, oh, c'est bon.
Ce soir.
Si, il y en a un qui a loupé un pénalty.
Attends, justement, est-ce que tu as une audience demain matin?
Ah oui, comme tous les jours, depuis le 30 mars jusqu'au 17 juillet. Donc, j'y serai aussi demain matin, dès 9h30.
Même si tu te couches tard après le match.
Oui, et alors, attends, je vais même te dire. J'étais en train de prendre mon petit café, donc là, juste à l'accueil, là. Et je vois un jeune homme de la sécurité. Et bien, figure-toi que lui, il a regardé le match, parce qu'il est marocain, il a regardé le match cette nuit. Il s'est couché, il était 5h du matin. Et quand je suis arrivé à 8h, il était opérationnel, il était en train de travailler. Donc respect.
Tu lui as montré un faux badge, il t'a laissé passer.
Oui, bien sûr. Bah voilà,
il t'a dit bonjour, monsieur.
Non, mais Sandrine, une question. Oui. Sérieusement.
Non, ne parle pas des supporters de l'OM.
Non, je ne vais pas. Mais si demain matin, j'arrive plus tard au boulot et je vois mon employeur en disant bah, le match a fini tard, on est jusqu'aux prolongations, les tirs au but, voilà. Est-ce que ton employeur peut être sympa et dire bon bah voilà effectivement c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde.
Alors déjà,
c'est entendable.
Je pense que tu peux le prévenir en amont, de façon à ce que lui aussi puisse s'organiser. Et sinon, si tu ne le fais pas et qu'il estime que c'est abusé, il peut très bien faire un abandon de poste. Et donc dans ces cas-là, premier avertissement, et il en faut après plusieurs pour te licencier.
Il y a Frédéric qui veut témoigner. Il est à quelques encablures d'ici. Il est dans les Hauts-de-Seine, à Issy-les-Moulineaux. Bonjour Frédéric.
Bonjour les grandes gueules. Bonjour Olivier. Et bonjour à Sandrine surtout. J'aime l'OM. Enfin non, je déconne.
Oh là, c'est pas drôle.
Comment vous faites
Mais nous reviendrons.
Comment je fais Je fais pas. Les matchs, j'en ai regardé peut-être 5-6, maxi. Parce que moi, de regarder des matchs à minuit, à 3h du matin,
ouais, c'est
à 5h du matin, même pas en rêve, quoi. Pourtant, je suis fan de l'équipe de France depuis toujours. Mais là, franchement, non, moi, je peux pas. En 94, oui, je regardais les matchs en pleine nuit quand c'était la Coupe du Monde aux États-Unis. Mm-hmm. Mais là, j'étais jeune, là j'ai 58 ans. Non merci, au revoir.
Oh, Frédéric, mais comment, alors
attendez.
Nature.
Attendez, non, ce mais... soir à 23h, vous serez devant la télé ou pas?
Alors c'est une bonne question. Ça dépend si j'ai pas trop bu ou quoi.
Ah, c'est un autre facteur ça.
Bah, soyez sobre. Bah, 23h, ça peut 23h.
Ça fait minuit moins le quart fait... là, à la mi-temps.
Ouais, minuit.
Alors, moi, je coucher à la mi-temps.
Ça, une heure.
Je suis en vacances, je suis pas à Paris là, je suis en vacances. Donc il y a barbecue, machin,
apéro,
d'accord.
Donc il n'y a pas d'obligation demain matin.
Oui, j'ai pas d'obligation. Oui, j'ai pas d'obligation, mais bon. Mais
visiblement, il n'a pas encore tranché entre le rosé et le match.
Et vous recevez ce soir, Frédéric?
Olivier, pardon.
Vous recevez ce soir, Frédéric? Est-ce que vous recevez chez vous? Est-ce que vous recevez chez vous ce soir? Est-ce que vous faites barbecue? Bah oui, bah il peut quand même en vacances.
Non, on est dans un bungalow. On est avec ma femme et mon petit chien Rocky. On est tranquille, quoi, mais
Et votre femme, elle regarde un peu avec vous?
Bien sûr.
D'accord.
Ah ouais, elle regarde.
Ça, c'est une vraie femme.
Quel est votre joueur préféré d'équipe de France?
Ousmane
Dembélé.
Oui, je suis parisien, donc je suis
bien sûr.
PSG, donc,
forcément. Ah, j'ai mal aux oreilles, Frédéric.
Le ballon d'or.
C'est pour ça, Sandrine, je voulais pas que t'entendes ça.
Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous. Et bonnes vacances, surtout. Parce que essentiellement, il faut profiter.
Je repose la question à toutes les grandes gueules. Est-ce que les employeurs doivent faire preuve de mansuétude si alors après le match, mais il y a d'autres matchs, 3h du matin cette semaine, si après par exemple si aujourd'hui un supporter marocain est arrivé un peu fatigué, etc., bon ouais, c'est pas grave, c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde.
Mais non, mais parce qu'on a tous une bonne raison, tu vois, à Dunkerque on est carnavaleux. Si tu réponds je viens pas travailler parce que j'ai fait le carnaval
pendant 28 jours,
voilà, ça va être compliqué. Il y a ceux qui sont fans de, je sais pas, le film qui passait hier très très tard, je suis absolument fan de ce film, il a fallu que je le regarde.
Donc aux gens de se débrouiller pour une RTT.
Bah oui,
c'est la mission.
Soit tu prends une
semaine en télétravail.
Moi je considère que la règle c'est la mission.
Travail dans télétravail.
Oui,
ça veut dire il est formidable parce que depuis tout à l'heure il dit non mais vous vous mettez en télétravail.
Donc ça veut dire que tu bosses
tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est
télétravail,
c'est vacances.
Mais c'est parce que j'ai vu autour de moi des gens se mettre en télétravail d'une certaine manière. C'est-à-dire tu fais ta première connexion.
Ouais.
Tu vois, tu réponds pendant 10 minutes et puis ensuite tu déroules le reste de la matinée.
Mais je rêve, il est en train de donner à nos auditeurs et
visiteurs
une stratégie, toi.
Moi je connais des gens en télétravail qui travaillent plus en télétravail que quand ils vont leur ennemi de boulot pour aller au boulot.
Je t'ai dit que j'ai vu quelques exemples autour de moi.
Des matchs, mais bon.
Prenons un cas concret. Tu as des collaborateurs. Est-ce qu'il y a des fans de foot parmi tes collaborateurs?
J'en ai eu.
Donc,
là,
est-ce que tu ferais preuve de mansuétude si te dit, maître ou Sandrine, demain j'arriverai un peu en retard, tu comprends, il y a le match cette nuit?
Oui. Très clair.
Ouais.
Non. Aucune mansuétude. Je ne suis pas comptable de tes loisirs. tu te débrouilles. Moi, comme disait Didier, c'est la mission. J'ai des dossiers
mission
à traiter.
Réalisée, quoi.
J'ai des rédactions de conclusions à faire, etc. Donc non, tu viens à 9h.
Voilà. Et donc, si ce soir le match, il y a prolongation, tir au but, qu'il y a des orages et qu'il s'est terminé à 3h du matin,
et alors quoi,
tu attends qu'il soit là demain matin à 8h.
Ils auront dormi 6h ou 7h. Bon, ben voilà, tu vois, c'est pas grave. Ils récupéreront le lendemain. Ils sont jeunes. Hein, c'est
allez,
pas non plus,
un dernier mot avec Philippe.
J'ai pas des gens de votre âge. Hein.
Un dernier mot avec Philippe. Corrèze. Bonjour Philippe.
Oh le tacle.
Comment vous ferez alors ce soir? Comment vous êtes organisé?
Je suis pas organisé, moi. J'allume la télé, je regarde le match, et puis demain je me lève à 5h comme d'hab, et
ben voilà.
Je joue au taf, quoi.
Bravo, bravo.
Donc, voilà. Vous dormirez un peu moins cette nuit.
Pas exactement, dormira mieux.
Il récupérera le lendemain.
L'infirmier libéral que vous êtes.
Ouais. Exactement.
Ouais. Oui, mais enfin, derrière, vous arrivez à enchaîner une journée de boulot, parce que l'infirmier libéral, c'est du boulot, hein. Tout le monde n'est pas avocat.
Je confirme, c'est du boulot. Mais c'est pas tous les soirs. Hein. Je vais pas me coucher
demain. Vous allez confondre les doses, les aiguilles. Ça va être un carnage demain.
Ah, ça va. On n'est pas non plus. Je peux dormir.
Sur mortalité en Corrèze.
À cause d'un infirmier.
Allez, un prono.
Ça m'arrive. Voilà.
Oui, voilà. Il y a
bien sûr, bien sûr.
Non, mais sauf que ce n'est que les 16e de finale.
Ouais.
Alors je crois que après, donc il y a un match à 23h. Je crois que le quart de finale.
Tout le monde est
énorme. Il y a un quart à 3h.
Non, je crois que c'est 22h du mat. C'est
22h.
22h du mat. C'est moi qui devrais me coucher.
Hey Philippe, un prono pour ce soir.
Un prono pour ce soir, moi je dis 3-0 pour la France.
3-0 pour la France. Ce sera merci. On le souhaite à écouter sur RMC si vous ne pouvez pas être devant la télé avec les commentaires, nous envoyer spéciaux.
J'aimerais
c'est la radio officielle.
Détrône Messi. Messi aujourd'hui c'est le meilleur buteur de ce mondial avec 6 buts. J'aimerais bien qu'on le détrône. Donc on attend de Dembélé et Mbappé de le faire.
On s'en fout.
Il va le faire. Mbappé.
Si on gagne la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on en
fait?
Si, il faut gagner. Mais toi tu comprends rien.
Il faut qu'on humilie les Argentins.
Les Argentins, il faut les humilier particulièrement Messi.
Est-ce que vous allez veiller ce soir, oui ou non, c'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Non, sûrement pas, 60%. Oui, bien sûr, 40%. Si M6 à 23h, ils font 40% de part de marché, on peut dire qu'ils seront contents. On se retrouve demain, 9h midi, bien sûr. En attendant, la discussion continue avec Estelle Denis et toute son équipe jusqu'à 15h. Bonjour Estelle.
Salut.
J'ai mis tes petits bracelets bleu, blanc, rouge.
C'est mignon. Bah,
oui, dès que la France joue, je mets mes petits bracelets bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est
et
une
ça
tradition.
Porte, ça porte bonheur à la France.
Et pour l'instant, je perds pas mal. Je sais pas si c'est que grâce au bracelet ou grâce aux pierres précieuses de Marina Ferrari. Mais toujours est-il que pour l'instant, ça se passe bien. Écoutez,
rassure-moi, tu les as achetés après 2010, les bracelets.
On me les a offerts, voilà, et je les trouve très beaux.
Tu les portais pas en 2010.
Ah, c'est malin, ça. Non, on m'avait pas encore parlé de ça, là. C'est dommage. Ça.
C'est Giro, hein.
C'est bien.
Que tu veux
c'est pas lourd.
Le lourdingue, c'est Giro, tu sais.
C'est pas lourd, et puis ça me manquait vraiment
ça.
Dans un instant, faut-il suspendre les loyers des locataires de bouilloires thermiques en période de canicule? Il y a une pétition qui circule, plusieurs milliers de signatures, vous nous dites tout. 32-16. On parlera également de cool roofing. Le cool roofing, c'est peut-être la solution contre la canicule. Ça veut dire peindre les toits en blanc.
Ah oui.
Alors, est-ce qu'il faut peindre les toits de Paris et des grandes villes en blanc pour justement lutter contre la canicule ou est-ce qu'au contraire, le patrimoine, ça passe avant tout?
Les bâtiments de France ne seront pas d'accord.
Ah non, pas du tout.
Puis on va manquer de peinture.
Ça veut dire que t'as plus de toits en zinc, t'as que des toits blancs. En tout cas, ce sera notre question de midi et demi. Bah, on reparlera de la terreur de Paris. Hamza, est-ce que c'est la honte, voilà, que la police, comme ça, soit défiée par un gamin de 14
Estelle.
Ans?
Mais qui Hamza chez toi?
Mais on devait venir ici. Mais non, quand même, arriver à mettre une chaise sur une trottinette pour en faire une mini moto. Enfin, je veux dire, voilà, je n'y avais pas pensé. Et il y a quand même des
chapeau
trucs.
Chapeau l'artiste, quand même. Hein.
Oui, quand même.
N'en riez pas. Vous lui donnez de l'importance.
Oh, mais n'en riez pas. Bon, au moins, il n'est pas sur les écrans.
Et le tueur. Il n'est pas sur.
Pas faux. Pas faux. Il n'est pas sur les écrans, au moins.
C'est vrai. Il joue dehors.
Il joue dehors. Bah oui. Il joue dehors. Enfin, je veux dire, il ne s'améliore pas.
Et puis, il développe la fibre économique. C'est un entrepreneur.
Bonne émission avec Estelle.
Il se présente comme un investisseur.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.